Redécouvriront une légende de sa discipline. Et ce soir, on va parler cross-country. Non pas Taylor Swift, cow-boy, mais non. Vélo tout-terrain, le VTT, le VTTI, comme on dit dans le métier. On va parler trial, piste descente, course, freeride. Nous ferons également un portrait de la championne olympique Pauline Ferrand-Prévot, Cocorico. Son surnom, c'est la cannibale quand même, c'est pas super top. Enfin, nous parlerons de certaines femmes médaillées au JO Paris 2024 pour nous remémorer cet anniversaire bientôt un an. Dans cet épisode, je serai accompagné de Sandrine, dit la nageuse de la banquise sacrée du clair de lune. Ça va Sandrine?
Je l'adore celui-là, garde-le.
Ah bon?
Ouais.
Parfait. Eh bien, où vous soyez, bonne écoute et merci de votre attention. Salutations à nouveau, nous allons donc parler de cross et de country, et non pas de coups de cross d'armes à feu et de country aux USA, c'est un autre sport.
Oui, c'est pas du tout pareil. Oui.
Rapnago, ready to rock the Rapnago. C'est un autre truc, évidemment. Exactement. Mais on va parler de VTT. Que veut dire VTT?
Vélo tout terrain.
Waouh, voilà.
Waouh.
Ouais.
Ah, c'est bon, ça y est, c'est bon.
Ah là, c'est bon, c'est rentré, magnifique. Seconde partie, on fera donc un portrait de la méga championne Pauline Ferrand-Prévot. Et c'est peu dire, vu la liste de son palmarès, qui est aussi longue que la liste des accusations sur Nicolas Sarkozy. Et ça, je trouve ça exceptionnel. T'es d'accord que t'as vu, il y avait quand même beaucoup,
non,
il y
a
beaucoup
à dire. C'est pour ça que je voulais parler d'elle, parce que je trouve que c'est une grande athlète, vraiment.
Et dans la troisième partie, on parlera des JO, évidemment, 2024, bientôt un an. Les médailles féminines qu'on a aimées dans un avion ou sous le pont d'un bateau, on les a aimées à se brûler la peau. Ah, je suis de bonne humeur, vous allez voir, ça c'est à cause de la victoire du PSG. Alors, je m'égare un peu, autopromo. Alors vous connaissez le rendez-vous en direct de l'émission le vendredi de 19h à 20h, mais aussi le mardi matin en rediffusion de 10h à 11h. Et si vous êtes coincé quelque part en train de faire des courses, préparer l'apéro ou regarder la liste des accusations de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas grave. Vous pouvez les trouver en replay sur la page de la radio, tapez sur Google AlyFM Podcast, cherchez l'émission Championne. D'ailleurs, vous avez plein d'émissions sympas, L'huile sur le jeu, Cappuccino, Jazzland, Au fil des pages, Chute libre et j'en passe. Il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que l'épisode 14 et 15 de Championne sur le judo et la course de haies, avec des portraits de Clarisse Agbenienou, je me suis entraîné pour le dire, et Sydney McLaughlin sont en ligne. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, @championne l'émission. On va prendre un petit instant déjà. Bon, alors comment ça va cette semaine, Sandrine?
Ça va. Et
ça
toi
va bien? Ah, moi, ça va très bien. Le PSG a gagné.
Je t'avoue, je ne l'ai pas suivi, mais.
Oh, voilà. Le sport, l'histoire avec un grand H, voyons.
Oui, mais c'est du sport masculin. Ça ne m'intéresse pas. Je suis désolée.
C'est faux, pardon, je vous jure. Ah bon, écoute, ça me fait plaisir que tu sois là en tout cas.
C'est réciproque.
Merci, c'est gentil. Alors, évidemment, on aura de temps en temps des intervenants différents, ça vous le savez déjà, vous connaissez la formule. Et les questions de la semaine. Donc merci à Sandrine d'avoir trié les 9990 emails, dont 9998 spam. Premier message de PSG Forever 75. Je me demande bien ce qu'il va me demander. Alors, le PSG ont-ils gagné? Il est vrai que la semaine dernière, j'avais promis de répondre à cette question.
Mais même moi, je sais combien ils ont gagné. Et pourtant, j'ai pas suivi.
Ils ont gagné combien?
5-0.
Oh là là, purée, elle le sait. Eh oui, 5-0, exceptionnel, époustouflant, contre l'Inter de Milan en finale. C'est historique, avec un grand H, mesdames et messieurs. Le PSG est champion d'Europe. Alors oui, c'était une mission de sport féminin, championne. Mais bon, on est des êtres humains aussi, et le sport c'est universel. Alors, pour mes amis parisiens, Cocorico, voici une chanson. Oui, c'est les champions, mon frère, pin pin pin. Oui, c'est les champions, mon frère, pin pin pin. Oui, c'est les champions, oui, c'est les champions. Luis Enrique, Ousmane Dembélé, c'est les champions. Applaudissez moi-même, voilà. Je m'applaudis moi-même, vous avez vu, c'est extraordinaire, vraiment. Voilà. Alors, je souligne tout de même qu'en foot féminin, parce que tu en parlais, il faut quand même le dire. Voilà.
Je parlais de sport féminin, pas spécialement de foot, mais
non,
oui.
Je vais te parler du foot féminin.
Ok.
Il faut savoir que la compétition de la Ligue des Champions, parce que j'en profite, elle existe depuis 2002, et les garçons depuis 1955. Et depuis 2010, seulement 15 ans, si vous faites le calcul, je suis fort en maths, tu as vu, hein, 15 plus 10, 25, je crois, oui, c'est ça. L'Olympique Lyonnais féminin, rebaptisé récemment les Lyonnaises, l'ont gagné 8 fois.
Les Lyonnes.
Les Lyonnes.
Les Lyonnes.
Pas les Lyonnaises.
Les Lyonnes.
Oh, mince alors. 8 fois en 15 ans. Et si on fait le calcul, ça fait combien?
Moi par contre, je suis nulle en maths.
Ça fait presque une fois tous les deux ans, pardon. Le PSG féminin lui a fait deux finales en 2015-2017, dont une défaite perdue face à... Bah Lyon, on en parle.
Je sais pas.
Fait rare. Merci. On a gagné 15% sur les CSP+. Alors oui, le PSG a fait un exploit historique. Faut leur rendre, c'est exceptionnel. 5-0, vraiment, ils sont à jamais dans l'histoire. Et ils rejoignent l'Olympique de Marseille qui a eu la sienne en 93. Ce qui fait une coupe aux grandes oreilles chacun. Donc deux coupes pour les garçons en 32 ans. Mais en 15 ans, 8 fois championne d'Europe. Ah. Et vous ne le saviez pas, j'en suis sûr. Et je me demande bien pourquoi, dans le sport le plus lucratif d'Europe, on invisibiliserait des sportifs de haut niveau au palmarès de dingo.
Parce qu'elles sont pas du bon genre.
Mais non, on n'est pas comme ça en France, voyons. Alors soyez de vrais supporters de football et intéressez-vous à tous les footballs. Alors, c'est là où faites semblant d'applaudir. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci, merci. Et reprenons, on repart sur le sport. Alors, Sandrine, question très importante. Combien d'heures en VTT ?
Tout le monde a fait du VTT. Enfin, c'est, enfin, pas en mode sport, pas en mode ouais, compétition, ce que tu veux, tu vois. Mais moi, j'ai grandi à la campagne, donc du faire du vélo dans la forêt, dans les bois ou tout ça. Enfin, tout le monde en a déjà fait. Après, te quantifier ça en heures, je sais pas.
Donc, on va dire ça va. Tu
si
tu
jamais
gères.
Je te demande combien d'heures t'as fait de football dans ton enfance, c'est difficile à quantifier quand même.
Si je multiplie par racine carrée de rentre à la maison plus multiplié par le nombre de fois où j'ai craqué mes genoux sur un terrain en béton, je dirais beaucoup.
Oui, non, mais c'est surtout que VTT, c'est quand même le type de vélo que tous les enfants avaient. Enfin, si tu veux, tu vois, il n'y avait pas encore, je parle de moi, mais il n'y avait pas encore les vélos électriques ou les vélos de course ou ce genre de choses. Si tu parles sur un vélo basique que tes parents étoffent, c'est un VTT.
Eh bien, non, nous, c'était le BMX, madame. Mais tu as raison.
Pardon, moi, c'est la campagne. Si tu me donnes un BMX à la campagne, ça va être compliqué dans les bois, si tu veux.
Je pense qu'un BMX, c'est plus, c'est mieux, c'est du cross. Tu vois, c'est, waouh, tu vois, c'est plus
ouais,
pour
mais
la
tu
campagne.
Tu fais pas du cross sur un BMX. T'en fais sur un VTT.
Eh bien, justement, le VTT, moi, j'ai une très mauvaise expérience. Parce que quand on m'a dit de faire du VTT en colonie de vacances et nous étions en 1994, sache qu'on m'a menti. On m'a dit, viens faire du VTT. Et moi, je pensais que c'était la petite balade. Tu vois, t'es sur ton petit VTT, tu fais ta petite balade là, t'es ambiance Tour de France à la cool. Ils nous ont fait nous lancer dans des descentes. Des descentes dans les bois,
ah,
sans
quand...
casque.
Oui, mais quand c'est les descentes, ça va.
Non.
Quand c'est les montées et que t'as pas d'assistance avec
au milieu des arbres, au milieu des arbres et les branches, mesdames et messieurs, au milieu des arbres et les branches, pas de casque. On est dans les années 90, on s'en fiche. Pas de coudière, pas de genouillère, rien. Comme ça, en descente, fou. Seulement ta vie et tes prières pour t'en sortir. D'accord.
Mais c'est génial.
Mais j'ai failli mourir 8 fois.
Ouais, mais toi, c'est parce que t'es entouré de béton, ça y est, tu vois des arbres, t'as cru que c'est. Mais ça va.
J'ai failli mourir.
Tu fais moins mal si tu tombes. Enfin, ça dépend comment tu tombes.
Ça dépend si tu prends l'arbre de face.
Mais... Oui, évidemment. Mais si tu tombes sur le sol, tu te fais quand même moins mal sur de la terre que sur du béton.
Eh bien, sachez que le VTT, c'est dangereux. Voilà. Eh bien, tu veux savoir, la fin de la journée, je l'ai passé comment ? À marcher à côté du VTT. Dans les montées, je marchais à côté du VTT. Dans les descentes, je marchais à côté du VTT. Il n'y a que sur le plat où j'en ai fait. Voilà. Parce que les freins, vénère. Et d'ailleurs, savais-tu d'où vient le VTT, le vélo tout-terrain ? Cette discipline est née quand et comment ?
Non, je ne sais pas, mais je pense que le vélo de route, ça existe depuis longtemps. Et ouais. Qu'ensuite, il y a eu des dérivés tels, comme tu as dit, le VTT ou le BMX.
Le BMX Cross.
Ouais, enfin, en français,
je ne connais pas
BMX,
le nom réel.
mais il y a eu les dérivés, mais à la base, c'est parti du vélo de route. Je dirais franchement le VTT... Tu parles en compétition ou juste comme ça ?
En fait, je pensais que tu allais juste me dire, je ne sais pas, dis-moi Jamie.
Non, parce que je pense que peut-être dans les années...
L'invention, comme ça.
Ah, l'invention ?
Ouais, date, c'est pas grave.
Dans les années 80 ?
Ah, presque, 1970. C'est une discipline qui est née aux États-Unis en Californie, lorsqu'un groupe de passionnés, sans doute à jeun, on ne sait pas trop, s'est dit, si on prenait des vélos, qu'on allait au mont Tamalpais, qui monte à presque 750 mètres de haut, d'accord ? On met les vélos en haut et on descend comme ça dans la forêt comme des oufs. Véridique. Du coup, ils se sont dit, oh, génial, on vient d'inventer le VTT. Alors, évidemment, ils ont défié la mort, j'imagine. Et à partir de là, ils ont commencé à faire un truc complètement fou. C'est qu'ils ont commencé à bricoler les vélos pour mettre, effectivement, comme j'ai dit, des meilleurs freins. Parce que les freins chauffaient beaucoup trop vite dans la descente.
Mais c'est surtout une selle différente, parce que dans les descentes, tu n'utilises pas ta selle, en fait.
Exactement. Des pneus plus larges aussi. Je ne savais pas que c'était important.
Ah, aussi.
Avec des crampons.
Est-ce que tu as déjà vu les pneus sur route ? Ils sont tout
Oui, les cyclistes, petit. C'est tout fin, fin, fin.
Donc en fait, le VTT, c'est quand même beaucoup plus épais. Tu as des picots dessus en plus.
Alors, anecdote suivante, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anecdotes. Oui, parce que le jour où je suis monté sur un vélo de cycliste, c'était tellement fin, je tombais. Tu sais, sur la droite, poum. Un peu comme le Mexicain, là, aux Jeux Olympiques, la même. Sauf que j'ai oublié les signes de croix. Je suis monté, poum, je suis tombé. Parce que c'était trop fin. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Du coup, ils inventent alors, en 1970, le mountain bike. Ou vélo de montagne. C'est important pour la suite, vous allez voir les connaisseurs. Parmi eux, Joe Breeze est le premier à inventer un vélo pour faire uniquement du tout-terrain. Et c'est Tom Ritchey, un autre membre du groupe, qui lance en 1979 la première fabrication en série de VTT en créant la marque Mountain Bike, qui est encore aujourd'hui le sponsor officiel des grandes courses de VTT, Championship et World Cup. Donc, ça, c'est un truc de...
79, j'ai dit 80, j'y étais.
Ouais, allez, on va dire que t'es sur la vente du VTT avant l'échec. En France, les premiers VTT apparaissent en 1983. Pour l'instant, je te l'accorde, on est bon. Ils viennent du Canada. Et aux Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996, le VTT fait sa première apparition dans la discipline cross-country. Mais qu'est-ce que la cross-country ?
Donc, la cross-country, je pense que simplement, c'est une épreuve de VTT. Dans... Alors, pour le coup, elle l'a fait sur la butte d'Elancourt, qui est un endroit qui est le plus élevé de la région parisienne.
Ah oui, j'ai eu 2004.
Oui, donc du coup, je pense qu'en termes de compétition, ça reste un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est, je pense, attention, je ne suis pas renseignée, mais je pense que c'est un parcours qui allie à la fois des montées, des descentes. Ouais. Il y a des obstacles, il faut qu'il y ait différents types de sol, à savoir du sol meuble, du sol non meuble, je ne sais pas comment on dit, comment on l'inverse.
Non Ikea, voilà, tout à fait. Non suédois, du sol non suédois. On peut faire du VTT partout, sauf en Suède.
Il doit y avoir aussi, je pense, un espèce de truc d'obstacle avec soit des planches de bois, soit des rondins, soit des marches à descendre, des trucs comme ça. Donc en fait, ça associe tout ça pour faire un parcours.
Ouais, et le parcours, il fait de 4 à 6 km. Et c'est une boucle qu'on fait plusieurs fois.
Oui, comme un tour de piste. Ça pourrait être sur n'importe quel sport. Hein. Ça pourrait être sur la Formule 1 aussi. C'est la même chose, sauf que tu le refais en boucle maintes et maintes fois.
Et le cross-country dit X-country. Et pourquoi le X ? Ouais, je fais une parenthèse. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre des choses.
Je sais pas.
Comment on dit X en anglais ? Cross. Voilà, vous voyez pas, mais je fais la croix. Cross country. Rapnago. Bon, c'est sûr, c'est pour ceux qui sont nés dans les années 80.
Ça va être compliqué aujourd'hui.
Écoute, c'est le VTT, d'accord ? C'est la discipline reine. Effectivement, le cross-country, c'est la seule qui est une épreuve olympique. On fait sa boucle de 4 à 6 km. On peut faire ça en 1h30 à peu près à boucler pour les meilleurs, bien sûr, peloton de tête. Et c'est effectivement la discipline phare du VTT. C'est vraiment, il y en a beaucoup plus, mais celle-ci, c'est vraiment celle qui est tout en haut du classement. Alors, le VTT, vous avez compris, il a été inventé par des fous furieux californiens en 1970. Il a été commencé à être vendu en 1979. On fait...
Oui, les années 80.
Voilà, depuis 96. Depuis 96, c'est une discipline olympique. Eh bien, la taille joue un rôle.
Ah, seulement 96 ?
Ouais, Atlanta. Ah, okay. Et il faut savoir que la taille joue un rôle cette fois-ci. C'est pas le cas pour toutes les disciplines au monde, mais la taille joue un rôle. Et c'est la taille des pneus. À la base, ce sont des 26 pouces de diamètre, mais depuis 2011-2012, on est sur du 27,5, voire 29 pouces. Et en vrai, je trouve ça énorme, mais effectivement, pour l'adhérence avec tous les, comme tu as dit, les obstacles, les montées, les cailloux,
non, mais ça devient...
les latteurs meubles, non meubles, on peut, c'est effectivement...
C'est gentil de reprendre mes couacs.
Je t'en prie. effectivement, c'est extrêmement important. Tu vois, je ne savais pas que les roues étaient plus larges, en fait.
Mais en fait, je pense que c'est un peu la même chose que... Enfin, je te parlais de Formule 1 tout à l'heure, mais c'est pareil. En fait, il faut que tu adaptes tes pneus à ton parcours. Mm. Et donc, il faut savoir qu'en plus, les pneus, ils s'usent au bout d'un moment donné, parce qu'au bout d'un nombre... Je sais pas combien de tours ils font, mais je pense que c'est assez conséquent. Et que du coup, à force de passer les obstacles, qu'ils soient larges ou qu'ils soient pas larges, faut les changer. Donc c'est vraiment à peu près le même principe que la Formule 1.
Et tu as totalement raison, puisque le VTT est considéré comme une discipline coûteuse, notamment à cause de l'entretien du matériel, des pièces de rechange, notamment les pneus. Parce qu'à chaque course, effectivement, tu vas devoir changer un peu ton matos, surtout si tu tombes. C'est important. Et du coup,
Il les porte aussi, pardon, je te coupe, mais il les porte des fois, les vélos. Vrai. Donc en fait, ils sont aussi faits d'un alliage qui est très léger, parce que sur certains obstacles, en fait, ils les portent là sur leurs épaules, ouais, ils le passent, en fait.
Non, bien vu, j'avais oublié de le préciser. Alors, comme de nous deux, c'est toi qui maîtrises le mieux la route, on l'appelle la guerrière de la route.
Pas du tout, mais...
Matt Sandrine. ça fait quoi quand tu as des pneus plus larges sur un...
tu as plus de stabilité au niveau du sol et au niveau des obstacles, en fait. Et comme je te dis, les pneus, ils sont un peu faits comme les pneus d'une voiture ou d'une moto. C'est-à-dire que certains, tu as des picots ou tu as des rainures. Et donc, en fait, tu as vraiment des pneus adaptés à un terrain meuble ou non meuble. et du coup, voilà, c'est super important. Enfin, le parcours, à chaque fois qu'il y a un début d'épreuve, ils font le tour pour savoir si jamais les pneus qu'ils ont mis au début, ça va aller, ça va pas aller. Enfin, il y a tout un truc de stratégie. Parce que physiquement, pour la personne qui fait la compétition, c'est dur, mais le terrain peut changer grand chose. Beaucoup, s'il a plu la veille, bah, automatiquement, ça va être plus compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui se mêlent à ça, en fait.
Bien vu. Bien vu, bien vu. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, le coût estimé pour faire du VTT, il faut savoir que le VTT est lié à la Fédération Française de Cyclisme. Je vous rappelle qu'on a fait un énorme, superbe épisode sur Jenny Longo, la goat du cyclisme sur route. Important.
Donc, les pneus sont plus fins.
Voilà. Donc, un VTT d'entrée de gamme, vous pouvez mettre déjà 600 à 800 euros dedans. Un VTT de compétition, ça peut atteindre jusqu'à 15 000 euros.
Ah oui, non, c'est hyper cher.
Comme tu as dit, fibre de carbone, machin, alliage, tout le tralala. Les équipements, le casque, les gants, le maillot, les chaussures, vous pourrez vous dire que mais ça coûte quand même un billet, parce qu'il faut rajouter les protections, coup d'hier, on est déjà à 200-400 euros. Sans compter les frais annexes qui sont les déplacements, l'adhésion au club de 50 à 150 et évidemment la licence 90 à 160. Donc grosso modo, déjà, si vous mettez un petit 800 euros pour l'équipement et le vélo, vous pouvez en faire effectivement un amateur comme toi à la campagne, tranquille. Mais si vous voulez rentrer dans le game, il faudra mettre un peu plus. Et là, ça commence à coûter des sous.
Bah, je pense qu'à la différence d'autres sports, là, pour le coup, c'est le matériel que toi, tu vas emmener et que toi, tu vas choisir qui va te coûter le plus cher et non la licence. Parce que finalement, ils vont juste te fournir un terrain pour pouvoir t'entraîner. Enfin, en termes de structure, ce n'est pas la même chose quand même, tu vois.
Si vous voulez commencer à avoir des plans pour faire des compétitions, de l'entraînement, des infrastructures, des profs qui vous apprennent plein de choses et tout, oui, il va falloir mettre un peu plus de sous. Donc, grosso modo, vous pouvez mettre au moins 1 000 euros d'investissement à l'année, j'entends, c'est quand même, on parle en annuel,
c'est pas
chaque mois. Voilà.
Oui, c'est un sport qui coûte un certain prix, oui. En termes de matériel, oui.
Et après, en termes de discipline, vous avez le cross-country qu'on a parlé qui est aux Jeux Olympiques, mais vous avez aussi le short track, lui qui est un format court de un peu moins de 20 minutes, très explosif, utilisé en qualification pour les Coupes du Monde. Vous avez des courses de marathon, vous avez aussi des courses de relais, vous avez des courses par étapes. Vous avez vraiment presque une dizaine en fait de sous-cases en fait pour faire du cross-country, c'est complètement ouf. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est vraiment fou. D'ailleurs, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de l'Union Cycliste Internationale, tu vois, je l'ai dit, qui est en fait ce qui chapeaute toutes les fédérations nationales, le Mountain Bike, on en a parlé tout à l'heure, World Cup, qui est en ce moment en Autriche et qui en août sera au Getz parce que la World Cup en fait, elle se passe dans divers pays. Et ça dure en fait d'avril à octobre, c'est complètement ouf.
C'est long.
Ouais, vous avez carrément des championnats du monde, eux aussi sont tous les ans, c'est en septembre, c'est 15 jours d'affilée, et c'est pas du tout la même chose. Mais vous avez aussi les Coupes de France, les compétitions européennes, les championnats du monde, il y a aussi des courses, dont une que j'aimais beaucoup, le méga-avalanche d'Alpe d'Huez, départ sur un glacier, descente massive avec plus de 1000 participants. Vous avez aussi une autre qui était très cool, c'est la MB Race. Alors pourquoi MB ? Parce que c'est une course de marathon de VTT autour du Mont Blanc.
Waouh !
Ouais, il y a vraiment des trucs très très forts, je trouvais ça génial.
Mais en termes de vue, ça doit être super joli là-haut.
Ah mais c'est une dinguerie. Et enfin pour terminer, évidemment, je vais te demander le nombre de licenciés de l'AFFC. Et après on verra de la musique.
J'en ai pas la moindre idée.
107 648.
Ils sont quand même pas mal.
C'est pas mal. Et on va revenir
après.
Et
pour le coup, je pense que plus dans les campagnes que dans les villes.
Évidemment. Évidemment, on parlera des clubs tout à l'heure, puisque là, on va faire une petite pause musicale et on parlera du cash prize, parce que ça aussi, c'est important de savoir combien ça coûte de gagner une course de VTT. Eh bien, Diego Armando Maradona, je vous en prie.
Musique. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours. picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Riley I could see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. In an old time string band, my baby plays a guitar, a big banjo now. All the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't a turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toque, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey.
Bonjour à nouveau auditrices auditeurs, je suis toujours Cad, l'homme du 92, vous n'êtes pas encore dans le Colorado. Nous sommes toujours sur Allegri FM 93.1, vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. On vient d'écouter Old Crow Medicine Show avec le morceau Wagon Wheel, qui veut dire la roue du wagon, et comme nous parlons de VTT, il y a la roue. Association d'idées, rien à ajouter. Mais aujourd'hui, je serai Cad la pédale, c'est un peu étrange, mais bon, vive les facteurs. Cad le fou du guidon. Nous sommes toujours avec Sandrine, dit la Cériole Cuisto del Osso Buco.
Ah, ça, c'est bien, c'est ce bien. Soir, tu donnes des beaux sobriquets.
Je commence à me...
Ouais, ouais. Je suis très triste d'ailleurs qu'il n'y en ait pas un pour la troisième partie, parce que tu ne vas pas le donner, mais franchement, j'aime beaucoup.
Au bout de 17 fois, c'est la 17e quand même. Alors, nous sommes toujours accompagnés par la régie, toujours au top. Merci la régie, je vous adore. On va parler plus en profondeur de notre légende Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or olympique Paris JO 2024 au VTT Cross Country, mais pas que. Et juste avant, je voulais revenir sur la question qui taraude tout le monde. Combien de clubs y a-t-il en France pour faire du VTT?
Bah, tu m'as dit qu'ils étaient combien? 107 648.
Et depuis octobre, il y a eu presque 20 000 demandes supplémentaires grâce au JO.
Ah oui, ça c'est sûr. 100 000, je dirais qu'allez, il y a peut-être une centaine de clubs. Ou 150.
1 700 clubs. souvent combinés. Alors, ce n'est pas exclusivement des clubs de VTT, vous pouvez faire du vélo ou d'autres, notamment le baby vélo ou le polo vélo, qu'on a très peu parlé, mais qui est une discipline extraordinaire, je vous jure qu'elle existe.
Du polo vélo.
Ouais, ouais. Tu fais du polo, mais à vélo, ils ont remplacé les chevaux par des vélos. Ça doit être encore des Anglais. Mais ça existe vraiment. Et en Île-de-France, nous avons 275 clubs, effectivement, qui sont du combiné. Alors, pour les cash prizes, parce que c'est important, on va parler de notre chère Pauline Ferrand, il faut savoir que pour gagner actuellement une victoire en cross-country, c'est à peu près 10 à 12 000 euros la victoire. C'est dégressif si vous arrivez dans le classement. Il faut savoir que l'USI, l'Union Cycliste Internationale, a aligné tous ces cash prizes, que vous soyez femme, homme, poisson-chat, vélocipède, vélociraptor, c'est le même prix. Et ça, c'est très cool. Il n'y a c'est pas bien. De différence de price pour les filles et les garçons. Et c'est le sponsoring et la visibilité médiatique qui va, bien sûr, faire monter les enchères pour les garçons qui seront plus médiatisés que les filles. On connaît, c'est toujours le même truc. On a parlé de la Ligue des Champions tout à l'heure, c'est le même système. Et du coup, notre Pauline Ferrand-Prévot nationale, elle dénonce ses écarts très souvent. Elle n'est absolument pas d'accord sur le fait que les sponsors ne sont pas répartis équitablement.
Surtout quand tu vois le palmarès qu'elle a, c'est quand même assez fou qu'elle soit... qu'elle n'ait pas accès aux mêmes choses que les hommes, en fait.
Alors, elle, justement, oui, parce que c'est LA championne. C'est un peu comme Serena Williams, tu vois, c'est des exceptions. Mais ce n'est pas le cas des
mais
autres.
Mais elle se bat pour que les autres voilà. l'obtiennent aussi.
Comme une Megan Rapinoe au football. Et ça, je trouve ça génial, en fait. C'est vraiment très cool de sa part de le faire. Donc, Pauline, une championne.
La pauvre, c'est une championne.
Merci. Une championne plurielle du bitume à la boue. Effectivement, le bitume pour la route, la boue pour les sols meubles et non meubles. Elle est née le 10 février 1990. Elle a 33 ans aujourd'hui. Elle est toujours en activité. Elle est née à Reims, en France. Ses débuts dans le cyclisme se font très tôt parce qu'elle suit son frère aîné dans un club de VTT local. Dès l'adolescence, elle montre un talent exceptionnel pour le vélo, que ce soit sur route ou en VTT ou en cyclocross. Et là, vous allez me poser la question, c'est quoi le cyclocross ?
C'est du cross aussi, un cyclo.
C'est quand tu fais du cross-country avec une encyclopédie, c'est du cyclo-cross.
Ça va être compliqué.
Dédicace à l'allemand qui fait du violon à l'envers sur son vélo. Ceux qui ont écouté les épisodes précédents sauront. Le cyclo-cross est une discipline cycliste se pratiquant à l'automne cette fois-ci, durant l'hiver. Donc en gros, c'est du VTT d'hiver, mais en hardcore.
Du VTT.
Il y a peu de routes. Il peut y avoir du sable, des prairies, des chemins. En gros, c'est vraiment le VTT version hardcore, mais avec l'hiver. C'est-à-dire que tu rajoutes le vent, la pluie, la neige.
Oui, et puis tu rajoutes le verglas. Ça parle avec tout ce exactement que tu disais avec tout à l'heure, hein, autour du Mont Blanc. Pour le coup, si tu le fais en hiver...
C'est ça. Donc, en fait...
En termes de matos, ça doit être autre chose.
Ah, c'est quand même... Il faut des pneus cloutés et tout. C'est, dans mon avis, c'est beaucoup plus dangereux, d'ailleurs.
Oui.
Donc, c'est vraiment une folie. Alors, pour notre chère Pauline... elle ne se contente pas d'un seul terrain. Effectivement, sur cyclisme sur route, elle est la discipline extraordinaire de notre amie Jeannie Longo. Elle est déjà titrée, et on va parler de ses titres dans deux minutes. En cyclocross, pareil, elle brille sur les circuits boueux et techniques. Et en VTT, qui a lieu du coup plutôt printemps-été, une médaille d'or qui était une des rares choses qui lui manquait à son palmarès. Il faut savoir que cette dame a une force mentale exceptionnelle. En 2016, elle prend une pause après une dépression liée au burn-out. Donc elle décide d'arrêter la course sur route, littéralement, et de se concentrer sur le VTT. C'est quelque chose que font rarement, très rarement, les athlètes. Et elle revient sur la route après les JO, c'était cette année, pour un Paris-Roubaix, et je te laisse nous dire, elle est arrivée combien au Paris-Roubaix ? Je te donne un indice.
Attends, je l'ai, c'est noté dans mes feuilles.
Je te donne un indice. Regarde cet indice.
Elle est arrivée première.
Voilà, extraordinaire. Elle est donc la première femme depuis des décennies à avoir gagné un Paris-Roubaix.
Mais c'est surtout, surtout le palmarès qu'elle a eu. Elle a été souvent la première femme à obtenir des titres que les autres n'avaient pas obtenus. Et tu parlais de Jeannie Longo et il y avait quelque chose qui était bien écrit, c'était que c'était la première femme à être devenue championne du monde sur route depuis Jeannie Longo. Ouais. Et Jeannie Longo, c'était en 95 et elle a fin 2014. Pour te dire le delta qu'il y a eu entre les deux. Qui est énorme, donc c'était la première sur pas mal de choses.
Oui, d'ailleurs, c'est une des rares à réussir à être championne sur les trois catégories en même temps. Elle est championne du monde sur route, championne sur cyclocross, championne sur VTT la même année.
Ouais, et puis en 2023, elle intègre une structure qui s'appelle Ineos Grenadier. Et du coup, c'est la première femme à intégrer cette formation. Et elle, c'est justement là qu'elle, fait, qu'elle participe à la saison de cyclocross, donc ouais. Le fameux, voilà. Et surtout, elle a accès aux entraînements et aux moyens qu'ont l'équipe féminine. Elle, elle y a accès. Donc, elle s'entraîne d'une autre façon.
Ouais, ça aussi, ça fait partie vraiment des grosses particularités de Pauline Ferrand. C'est qu'elle a un entraînement, une préparation très particulière, mais... Pour son palmarès, alors je vous dis tout de suite, si on doit faire son palmarès, on est là pour deux jours. Parce qu'elle a un palmarès qui est exceptionnel. On va vraiment faire des petits bouts à droite à gauche parce que c'est une folie. Son palmarès, chaque ligne, c'est une accusation de P. Diddy au tribunal. Donc je peux vous dire que c'est long, très long.
C'est très très long. Elle a énormément de... Enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je voulais parler d'elle parce que je l'ai trouvée vraiment, pour le coup... Et enfin, pas, je sais pas si je dirais héroïque parce qu'elle a juste fait ce qu'elle voulait faire, elle se donnait les moyens de réussir ce qu'elle a voulu faire. Mais j'ai vu sa course, je l'ai regardée, et pourtant je suis pas adepte de regarder ce genre de choses, je suis simplement tombée dessus. Les JO en même temps, il y en avait partout, donc il y avait juste à regarder à la télé. Je suis tombée sur sa course, et franchement, son, comment elle était concentrée sur son vélo, et elle était vraiment dedans. Et surtout, bah, les commentateurs qui, à la base, font aussi ce sport-là, on en dit plus sur elle, que je ne connaissais pas du tout avant cette course. Et du coup, sa manière de s'être entraînée, d'avoir fait les choses et d'avoir tout donné pour avoir cette médaille. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a eu les médailles de tout, mais elle n'avait juste pas celle-là.
Ouais, c'était la seule qui lui manquait.
Et du coup, elle s'est donnée vraiment à fond pour l'avoir. Et son... Tu l'as dit, elle a eu maintes et maintes blessures, elle a fait un burn-out, elle a fait énormément de choses.
J'ai pas encore parlé de blessures.
Non, mais t'as parlé de burn-out, mais elle a eu, on en parlera peut-être après, mais énormément de blessures. Et ça, son côté de la force qu'elle a eue et de pouvoir avoir ce titre, c'était tellement beau à voir qu'elle réussisse à avoir quelque chose et elle s'était donné les moyens de le faire. Et franchement, c'est un exemple de fou, vraiment.
Non, vraiment, c'est fou. D'ailleurs, sa course, on va en reparler après. Mais déjà, un peu le palmarès. Vas-y, tu veux envoyer un peu de...
En fait, il y a tellement de pages que moi, je ne sais plus. Moi, mais je ne les ai pas regroupées. Donc, si tu les as en façon plus condensée, je t'en prie.
Championne du monde junior sur route en 2010. Médaille d'or. Championnat du monde sur route élite, donc en 2014. Elle alors. En 2014, elle est championne du monde de VTT cross country. Elle a une médaille d'argent. Mais après, elle est championnat du monde cyclocross de l'or. VTT Cross Country, alors attention, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023, elle a l'or, voilà, c'est que des médailles d'or, papa. Il y a le championnat du monde VTT Marathon, où elle a de l'argent seulement en 2023, les Jeux Olympiques, tu as dit, sa course formidable, elle gagne l'or, elle a de tout, vraiment, sur route, son palmarès, il date de 2005, elle commence à gagner des choses, jusque là, 2025, où elle gagne le Paris-Roubaix, ce qui est une dinguerie. Elle est deuxième du Tour des Flandres aussi. Elle est troisième des Strade-Branche. Elle participe. D'ailleurs, elle va participer cet été. N'hésitez pas à regarder et à encourager. Elle va faire le Tour de France féminin. Elle a pour objectif de le gagner. J'espère. Je croise les doigts. Donc, elle est vraiment sur énormément de choses. Elle a des médailles d'or dans tous les sens, des médailles de bronze, d'argent, mais elle gagne quasiment tout. Et en fait, elle a une hégémonie sur le VTT qui est juste insane. J'ai jamais vu quelqu'un gagner autant de titres, vraiment. Et pourtant, on a fait plusieurs athlètes. À part Jeannie Longo, en vrai, j'ai personne qui a gagné autant de trucs, quoi.
Mais c'est surtout qu'en fait, elle n'est pas cantonnée à une seule discipline. Elle fait toutes les disciplines qui sont liées au vélo. Et j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où elle a... où elle a eu, que ce soit championnat de France, championnat du monde, où elle a eu les titres, en fait, elle bouge, mais elle passe d'une à une autre. Elle est capable, dans une année, d'être championne du monde de VTT ou bien de cyclocross. Et après, elle va prendre sur la route. Et en fait, elle est partout. Et je pense, pour le coup, elle est... Enfin, comme tu l'as expliqué, c'est différentes choses. Donc, il y a différentes températures, différents trucs. Et en fait, elle s'adapte. Et elle se donne à fond et elle y va, en fait. Et là, pour le coup, de fait d'avoir fait le Paris-Roubaix et en plus de participer...
Tour de France.
Ouais, elle continue quoi.
Non mais c'est un énorme exemple, elle est très peu connue et pour moi c'est encore plus fort que Jeannie Longo qui est déjà à GOAT, c'est que comme tu as dit en fait, elle fait VTT, cyclocross, route, en fait, elle fait trois disciplines différentes alors que Jeannie a toujours été sur la route. C'est extrêmement impressionnant. Alors faut savoir le 12 avril, ouais, je fais un petit peu d'histoire. Le 12 avril, Pauline Ferrand-Prévot de son nom dispute pour la première fois, c'était la première fois, le Paris-Roubaix. Initialement présente en tant qu'équipière pour Marianne Vos, donc à la base elle était juste se tester, elle est tout d'abord distancée, prépare-toi, 54 km de l'arrivée. À la suite d'une chute Et tu vas me parler de ses blessures juste après. De retour sur le groupe des favorites, elle attaque à 25 km de l'arrivée. Rejoint et distance Emma Norgaard-Bjørg, alors seule en tête depuis le début quasiment de la course, Ella va s'imposer en solitaire normal. Voilà. Devenant ainsi la première Française à remporter cette course. Avec cette victoire, elle met également fin à 28 ans de disette pour le cyclisme tricolore. Aucun Français n'avait levé les bras au Vélodrome de Roubaix avant Frédéric Guédon en 97. Donc en fait, elle tombe. Elle se fait distancer de 50 km. Elle rattrape au 25e la bosse qui est devant. Elle part tout droit, elle gagne.
Elle a une force mentale de fou.
Mais justement, vraiment, cette force mentale, je pense, c'est par rapport à ses blessures. Est-ce que tu peux nous voir un florilège un peu ?
Oui, elle a souffert de sciatique, beaucoup de sciatique. Et après des examens, elle s'est rendue compte que du coup, elle avait la jambe gauche, qui était plus courte que la droite. Donc du coup, au vélo, il faut qu'elle compense et tout ça. Elle a eu des fractures. Elle a eu la fracture du plateau tibial, ce qui l'a empêchée de participer à la saison de cyclocross. Mais elle a quand même gagné juste après le championnat du monde. La sciatique, pour le coup, l'a beaucoup suivie parce qu'elle a dû, par la suite, être opérée. Mais au-delà de ses blessures, elle a subi des crevaisons, elle est tombée. Enfin, elle a eu tout un melting point de choses, mais elle lâche pas.
Ouais, c'est ouf. Moi, j'ai vu, elle s'est flinguée la cheville, elle s'est flinguée les mollets. Elle s'est fait opérer d'une artère qui est près de l'artère fémorale au niveau du bassin. Et après cette opération, elle est championne du monde.
Ouais.
Enfin, bon, la meuf est imbattable pour moi.
Ah, je vois ici, tu vois, en 2020, elle s'est fracturé le nez lors des tests pour les Jeux Olympiques de 2020. Elle s'est fracturé le nez, mais elle est quand même championne du monde juste après. Enfin,
voilà. C'est fou. Et pour la petite histoire, lorsqu'elle gagne et qu'elle remporte sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris à Élincourt, comme tu en as parlé, elle gagne en faisant 1h26 avec 2 minutes 57 d'avance sur la seconde et 3 minutes 06 sur la troisième. Juste ça, c'est complètement ouf.
Je l'ai vu cette course. Sincèrement, j'ai vu pas mal de choses qui pouvaient m'intéresser. On en avait reparlé, la natation, tout ça. Enfin, j'ai regardé des choses qui m'intéressaient. Pour le coup, ça, j'étais pas spécialement. Et ben, franchement, elle m'a émue. Elle m'a émue parce qu'elle était vraiment concentrée sur sa course. Elle était dedans, la pauvre. Il y avait deux Françaises. Il y avait elle et malheureusement une autre.
Loana Conté. Qui était
derrière, malheureusement, elle a chuté et elle a chuté lourdement.
Ouais, très bien.
Et en fait, ils ont préféré pas lui donner l'information pour qu'elle reste concentrée. Mmh. Et en fait, elle arrive, t'as les présentateurs et les gens, ils sont tous en mode genre t'as gagné. Mais elle est tellement dedans et à un moment donné, elle lève les yeux et elle se rend compte qu'effectivement, elle a gagné. Elle pleure, elle part à pleurer, elle ralentit. Donc ouais. En fait, l'écart que tu as donné, il est encore plus grand parce qu'en fait, elle ralentit il lui reste encore à parcourir.
Elle,
à ce moment-là, elle regarde derrière, elle comprend qu'elle a gagné. Et là, c'est tout qui redescend en fait. Et c'était tellement beau à voir vraiment, pour le coup, vraiment le sport. C'était vraiment... Et après, elle a expliqué le pourquoi du comment et ce qu'elle avait fait pour en arriver là. Et elle s'est vraiment privée de beaucoup de choses pour pouvoir gagner. Et en fait, quand tu vois que ça paye, c'est tellement beau comme moment à regarder, vraiment.
Ah, c'était génial. Elle pleure, elle lève son vélo. Bref, grand moment. Et d'ailleurs, nous allons enchaîner avec de la musique parce qu'elle mérite le morceau qui va arriver. Il y a le mot roux dedans, je vous jure, il y a Will dedans. Musique, maestro.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Everybody, we will rock you.
oui, excusez-moi, j'étais en train de danser, bien sûr. C'est exceptionnel. Alors, nous sommes toujours sur 93.1 à Ligue FM. Je suis toujours Cad, l'homme du 92. Vous êtes bien en émission championne. On vient d'écouter Queen. We will rock you. Et je veux rien savoir, il y a le mot will, donc ça passe. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi. Ça va, Sandrine ?
Ça va, et toi ?
Très bien. Alors, pas de sobriquet pour la troisième partie, c'est la règle.
C'est dommage, c'était sympa.
Ah, pas cette semaine, j'ai été d'être un peu créatif. Maintenant, on va parler de plusieurs choses de façon libre, et notamment sur les JO de Paris 2024. On va parler brièvement, bien sûr, parce qu'on pourrait en parler pendant 1000 heures.
Totalement.
Ne serait-ce que juste la cérémonie. Je pense qu'on peut en parler pendant 8 heures.
Ouais.
Magnifique, vive la France. Alors, bien sûr, on va spotter, faire un focus sur des médailles exclusivement féminines, peu importe le métal. Évidemment, à chaque fois que je dirai jingle, la régie enverra le jingle. Et maintenant, tout de suite, on commence. Attention, jingle. Vive la France, mesdames et messieurs, nos champions olympiques. Ah. Et bien entendu, Sandrine, médaille d'or du VTT cross-country, Pauline Ferrand-Prévot, qu'avez-vous fait ? Ma chère Pauline, pour pouvoir à nouveau, moi j'aime bien hacher les mots comme ça, devenir championne. Vous avez fait plein de sacrifices. On vous écoute. Je suis Laurent Salami. Bonjour.
Je ne vais pas parler en son nom, si tu me le permets. Non, j'ai vu après qu'elle a. J'ai vu ce qu'elle avait fait. Comme je disais, elle a fait des concessions. Du coup, elle a changé complètement d'entraîneur, elle a changé de club, elle s'est coupée des réseaux sociaux, elle a changé son alimentation, elle a pris un coach mental, elle a carrément revu ses entraînements physiques en termes de, bah, comme on l'a dit, elle a fait plein de choses différentes au niveau du vélo, mais du coup elle est partie dans un autre pays pour avoir un autre entraînement, que ce soit physique par rapport à les blessures qu'elle avait eues, tout ça, les prendre en compte dans ses mouvements et ce genre de choses, et surtout elle s'est coupée du monde, entre guillemets, pendant pratiquement 4 ans. Ouais. Et surtout, elle a pris un coach mental qui l'a beaucoup aidée. Et enfin, quelle différence.
Quand ah oui, on voit la course, détermination,
elle
tout
est,
ça.
Elle est... Enfin, voilà.
Elle est injouable.
Elle met 3 minutes à la seconde, c'est ça ?
2 minutes 57 et 3 minutes 06 pour la troisième. Qui c'est sont pas, américaines et suédoises.
Elle n'a pas gagné. Elle a survolé.
Ah, si tu veux,
pour une médaille qu'elle avait du mal à avoir, de l'avoir de cette façon, c'est...
Ah, c'est la plus belle des manières, sachant qu'en plus, comme on l'a dit, elle ralentit à la fin, l'émotion, à 100 mètres de l'arrivée, elle pleure, elle ralentit. D'ailleurs, elle prendra son vélo qu'elle va soulever devant tout le monde.
C'est très léger. Hein.
Voilà.
Mais c'est très important, parce que du coup, le fait d'avoir expliqué ce qu'elle a fait pour se préparer et d'avoir mis en avant son coach mental, c'est très important pour les athlètes. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé dans une précédente émission. Mais vraiment, c'est très important. Avec tout ce qui l'entoure, ça doit être un niveau de stress tellement élevé que du coup, elle était dans sa bulle et elle a tout cartonné.
Et d'ailleurs, vous pouvez voir sur Internet, elle est en interview avec Léa Salamé, puisque France 2 avait la primauté des médailles françaises. Elle est aux côtés de Dupont, le rugby à 7.
Ouais.
Dans la même émission, elle parle effectivement de cette coupée des réseaux sociaux, ça lui a fait le plus grand bien. Donc on a vraiment un enjeu sur la santé mentale des athlètes. On en parle parfois effectivement dans l'émission pour être ce haut niveau. Et je pense que se couper des réseaux sociaux, surtout quand tu as une personnalité publique, ça a beaucoup trop d'impact en fait, je pense, sur ton mental.
Ouais,
et
clairement.
Se couper, c'est vraiment...
Mais elle
n'a
pas
très
fait que ça, elle a fait tout ce qu'elle a fait pour se préparer. Et quand on voit le résultat, c'est juste...
Ah non, c'est fou. D'ailleurs, elle a, en préparation, elle a fait aussi de la cryothérapie.
Oui, mais je te dis, ça fait partie des entraînements qu'elle a fait et qu'elle a vu. Elle a changé de coach, elle a changé de
train,
elle a tout changé, elle a repris. En fait, comme elle a, c'est clairement ses mots, elle avait dit, j'ai tout changé et j'ai repris à zéro. Comme si, en fait, toutes les autres années qu'elle avait fait, c'était mis de côté. Là, elle a repris avec la personne qu'elle était actuellement, avec les blessures qu'elle avait, avec le mental qu'elle avait. Et vas-y, on repart sur un programme long de 4 ans et on fait.
Et elle a roulé sur tout le monde. Je la cite donc, cette citation m'a fait rire. Après tout ce que vous venez d'entendre, la liste de ses trophées, sa préparation, je cite Pauline Ferrand-Prévot. Je suis bonne un peu partout, mais très bonne nulle part. Il va falloir que je me spécialise. Voilà. Voilà. Alors du coup, merci Laurine Prévost de votre moment. Alors, tu veux parler de quelqu'un d'autre ou c'est moi qui m'y colle ? Choisis.
Je commence.
Tu commences ? Attention, jingle. Ouais, vive la France !
Je voulais juste parler de Rebecca Andrade. Elle est sud-américaine et je ne sais pas si vous avez vu ces images. Du coup, c'était un podium au niveau de la gymnastique.
D'accord.
Donc la gymnastique un peu comme Simone Biles qu'on avait parlé dans un autre épisode. Et du coup, c'est juste l'athlète la plus titrée des JO de Paris, puisqu'elle a eu 4 médailles, dont une en or dans la gymnastique artistique. Et surtout, je voulais parler du podium. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le podium. Elle était évidemment là, sur la première marche. Mais sur la seconde, il y avait juste Simone Biles. Oh. Et sur la troisième, il y avait Jordan Chiles. Et en fait, c'était une image forte parce que toutes les trois, elles étaient sur le podium, fières d'être là, trois femmes noires, fières. Et c'est surtout qu'il y a une image où, en fait, t'as Simone Biles et Jordan Chiles qui se sont mis à côté et qui ont fait le geste, une révérence devant elles. Ouais. Et c'était une image forte et vraiment, j'avais envie d'en parler.
Pas mal. Évidemment, là, vous avez compris, on est en 2024, on est en juillet, on fait un petit revival. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission directement aux Jeux Olympiques parce que c'est
franchement, il y a trop de choses à dire.
Et moi aussi, j'ai quelque chose à raconter qui m'a mis les poils, comme on dit. Attention, jingle. Ouais, vive la France! Quelle cérémonie d'ouverture! Vraiment. Nous sommes le 11 août 2024 à l'Accor Arena de Paris. Les Bleus, eh bien, les filles, oui, ont affronté les États-Unis en finale, dans un match intense. La France a mené de 10 points au début du troisième quart-temps. Je rappelle, il y a 4 quart-temps. La France a mené de 10 points. Moi, j'étais là. Je me suis dit, oh, les garçons, ils ont perdu contre Steph Curry, LeBron James. Les filles peuvent faire quelque chose. Le match était plus fou que le match des garçons, je vous jure. C'était encore mieux. Et en plus, les États-Unis reviennent au score, prenant l'avantage en fin de match. Et dans les dernières secondes, Gabby Williams, française, inscrit un panier qui aurait pu égaliser, mais son pied était pas sur la bonne ligne. Du coup, ça marche pas. Et elles perdent 66 à 67. C'est une des plus belles médailles d'argent pour moi de ce tournoi. J'ai adoré, c'était extraordinaire. Faut savoir que Gabby Williams a mis 19 points. La relève est assurée, on a plein de joueuses talentueuses de basket et je pense que les prochains championnats du monde, on va battre ces Américaines. Mais le match était fou. J'étais en stress.
Je peux pas regarder, donc je peux pas.
Et ben moi je le dis, je le raconte. Moi j'étais en stress, madame. Moi j'étais là, j'ai eu plus d'émotions à regarder les filles jouer que les garçons la veille, alors que c'était un match très serré aussi entre les garçons avec des grandes stars et des grands joueurs français comme Rudy Gobert. Notamment.
Ouais, ils avaient fait une sacrée équipe côté masculin en fait, sur le papier en tout cas, ça faisait beaucoup de jolis noms.
Oui, en plus j'ai eu la chance d'aller les voir jouer contre Puerto Rico, l'équipe nationale américaine. Voilà. Allez, c'est à toi. Tu es prête? Attention. Oui. Jingle.
C'est trop bien.
J'adore.
Alors moi, je vais parler de Cindy Ngamba. J'espère que je le dis bien. Ouais. Je voulais parler d'elle parce que c'est une boxeuse du Cameroun. Et c'est surtout la première médaillée des JO de Paris pour l'équipe des réfugiés.
Ah oui.
J'aime beaucoup cette équipe et je trouve que
tu
c'est un beau message. Je vais parler d'elle et du coup ça va expliquer. C'est juste qu'en fait elle a quitté le Cameroun parce que pour le coup c'est dans son pays, ce n'est pas accepté l'homosexualité et d'accord. Pour le coup elle était en danger, donc elle s'est réfugiée en Grande-Bretagne.
D'accord.
Et dans l'équipe des réfugiés, c'est des personnes issues d'un pays ou d'un autre pour lesquelles ils ne peuvent pas pratiquer leur sport, que ce soit par rapport à leur genre ou par rapport à leur couleur ou par rapport à des choses que je trouve complètement qui n'ont pas de sens. Et du coup, ils intègrent cette équipe qu'on appelle l'équipe des réfugiés. Et c'était, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont rarement des médailles.
Oui.
Et pour le coup, cette année, cette boxeuse a remporté la médaille d'or. Donc, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça génial. Elle a pu faire ce qu'elle avait envie de faire dans la discipline qu'elle avait envie de faire, malgré qu'elle soit dans l'équipe des réfugiés.
Mais surtout, quelle victoire!
Ouais!
Quelle victoire! Quelle victoire de gagner, de prendre l'or, alors que du coup, tu ne peux pas jouer sous les couleurs de ton pays. Il y a effectivement aussi des athlètes russes qui étaient contre le gouvernement de Poutine qui étaient dans cette équipe, notamment. Et c'est victoire de ouf. Tu sais quoi? Je ne savais même pas.
Bah écoute, ravie de te l'avoir appris.
Merci. Vraiment, pas mal.
En plus, c'est la photo où elle est avec sa médaille, elle a un sourire qui est tellement beau. C'est tellement... Elle se voit qu'elle est... Voilà, c'était beau à voir.
Rappelle-nous encore une fois son nom.
Elle s'appelle Cindy Ngamba.
Tu sais quoi, je vais aller vérifier. Merci beaucoup. Alors, en retour, nous sommes toujours en juillet. Attention, jingle. Je pense que les gens doivent devenir fous avec le jingle. Alors, les gens deviennent fous avec le jingle, je sais. Alors, attention, nous sommes au Panthéon, entre le Panthéon de Paris et le pont Alexandre III. Nous sommes sur le tir à l'arc, mesdames et messieurs, le tir à l'arc. Elle a 24 ans. Elle s'appelle Lisa Barbelin. Elle est en train de jouer pour la médaille de bronze. Il faut savoir que, à l'image d'une Carolina Marin, espagnole, qui joue au badminton et qui est au milieu de plein d'Asiatiques, la première médaille d'or sera donnée et la finale est entre deux Sud-Coréennes. Les Sud-Coréens ont tout remporté. vraiment quasiment tout
sur
au tir à l'arc.
Tir à l'arc. Okay.
C'est une dinguerie. Tir à l'arc, c'est des phénomènes, vraiment, pour le coup. Et donc, du coup, elle doit avoir sa médaille de bronze. Et ben, je peux vous assurer que c'était tendu et c'est extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que Lisa Barbelin est devenue la première archère française à remporter une médaille olympique en individuel depuis le retour du tir à l'arc aux Jeux. Depuis 1972.
Oh, c'est génial.
Donc, c'est la first. Elle a une médaille de bronze, mais on s'en fiche.
On s'en fiche, elle a une médaille.
Voilà. J'ai revu le truc. C'est dingue parce qu'en fait, il lui reste, en fait, tu as 10 secondes pour tirer ta flèche. En gros, j'explique un peu. Donc voilà, tu tires, tu as la cible. On connaît du jaune, du rouge, du bleu, du noir. Et le truc, c'est qu'en fait, elle arrive sur sa dernière flèche. Elle joue la troisième place contre une Sud-Coréenne, qui est très forte d'ailleurs. Et du coup, il faut absolument qu'elle fasse un 10, c'est-à-dire qu'elle tape dans le jaune. Enfin, un 9, pardon, qu'elle tape dans le jaune pour pouvoir continuer le concours parce qu'elle se lance flèche sur flèche, un peu la Robin des Bois. Et elle fait un 10. Et quand elle fait le 10, comme tu l'as dit, ce qui était génial dans ces JO, et franchement, je veux le souligner, la plupart des commentateurs étaient d'anciens sportifs. La commentatrice pleure.
Oui.
En direct. C'est extraordinaire. Joie, elle crie partout. Lisa Barbelin est folle, elle court et elle est applaudie par tout le stade. Elle fait quand même un truc que j'ai beaucoup aimé parce que les Asiatiques, surtout les Sud-Coréens, sont très, très comment dirais-je...
Réservés.
Ouais, réservés. Et du coup, elle va exploser de joie, venir la voir, la remercier tranquillement, humblement et repartir crier de joie. Je trouve ça génial. Lisa Barbelin, extraordinaire médaille de bronze française. Vraiment, pour le coup, regardez ce concours, ça aussi, c'est pépite. Vraiment, vraiment, vraiment.
Super.
C'est à toi ?
Oui, c'est à moi.
Ah bah, jingle, bien sûr.
Ça fait trop bizarre quand ça s'arrête, il faut parler. Pardon. Et là, je voulais parler de quelqu'un, mais je sais que tu l'as mis aussi dans tes notes. C'est Iman Khelif, oui. Cette fameuse boxeuse algérienne qui a été victime de harcèlement. Mon Dieu, elle a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 66 kilos.
La boxe.
Dans la boxe, oui, pardon, j'ai pas dit la boxe.
Oh,
c'est l'une des trois médailles que l'Algérie a remportées, oui, pendant les JO. Et malheureusement, elle a subi une vague de harcèlement, des attaques sexistes. Ça, ce qui est bien, c'est que pour le coup, ça n'a pas entaché sa victoire et qu'elle l'a bien mis en avant et qu'elle continue à mettre ça en avant. Je trouve ça pitoyable, mais en même temps, elle a gardé le sourire, elle a gardé le fait d'avoir remporté cette médaille. Et pour le coup, l'Algérie, il n'y en avait que trois. Donc quand même, c'est très important. Et voilà, je voulais juste en parler parce que c'est une grande athlète et elle mérite qu'on parle d'elle positivement.
Surtout qu'elle a subi un cyberharcèlement de l'espace. Elle a même eu un truc pareil. Tout ça parce qu'en fait, elle a dosé une boxeuse italienne qui s'est plainte et qui a dit « Oui, mais elle tape trop fort, ça doit être un homme !» Voilà. Et après, c'est parti en cacahuète. Internet reste Internet. Hein. Le pire comme le meilleur. Et du coup, même son père a dû témoigner.
A dû montrer son livret de famille pour justifier que, enfin, son acte de naissance, en fait, pour justifier que c'était une femme.
Non, mais de là à sortir l'acte de naissance,
ouais,
pour justifier la naissance de ta fille, parce qu'elle est boxeuse pro et qu'elle joue aux Jeux Olympiques pour représenter ton pays, c'est vraiment, vraiment spécial. Et encore une fois, j'applaudis la détermination, parce que finalement, elle a, avec tout ça sur le dos et cette charge mentale dégueulasse, parce qu'elle s'est fait défoncer dans énormément, ouais, de médias dont je ne citerai pas le nom, bref, et sur Internet, elle gagne la médaille d'or.
Ouais, c'est... elle leur a fait un grand pied de nez. Regardez, hop, voilà. Moi j'ai la médaille.
Et pas vous.
C'est ça.
Mais extraordinaire, ouais. En plus, elle s'en partage. Hein. Ces
combats, mais elle continue, en fait. J'ai vu qu'elle continue à en parler et du coup, ça l'a incité à se battre pour que d'autres subissent moins ou en tout cas subissent pas du tout. Ça serait très bien. Ce genre de choses qui est totalement... Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin,
ça n'a aucun sens. Bon, d'accord.
C'est l'autre athlète, tu t'es fait doser, stop. Bah, tant pis. Enfin, ça reste du sport, donc il y a un gagnant et il y a un perdant.
Bah, surtout quand tu fais un sport où on tape dessus, en fait.
Oui, mais...
voilà. Parce qu'à la limite, ça serait un autre sport, je peux comprendre. Mais là, tu acceptes qu'on te tape dessus. Donc forcément, tu peux pas critiquer le fait qu'on te tape, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est juste que ça a pris une ampleur de fou et que faut le souligner pour dire que ce genre de choses n'est pas acceptable.
Je suis complètement d'accord. Une très très belle victoire, encore une fois, une très belle médaille, vraiment, pour le coup. Et enfin, j'ai un petit dernier. Attention, jingle. Quand j'entends cette musique, je pense tout de suite aux médailles, ça me met de bonne humeur. Ça. Je dois vous mettre ça comme réveil, en fait, pour le coup. Alors, une petite dernière. C'est la première championne olympique de breakdance. Et Snoop Dogg est venu pour la finale. Et ça, c'est beau.
Tu parles de la petite qui avait 13 ans lors de la première participation ? Non, c'est pas elle ?
Non, moi, je te parle de la japonaise Ami Yuasa, 25 ans, qui a gagné le concours de breaking dance. Et en fait, il faut savoir que c'est de la danse hip-hop. Ça sera peut-être sans doute la dernière fois que ça sera aux Jeux Olympiques, parce que ça ne sera pas Los Angeles. C'est vraiment nous, Français, qui l'avons intégré pour nos Olympiades. Donc là, je trouve déjà l'histoire folle.
Donc en fait, c'est une entrée et une sortie.
Exactement. Parce qu'effectivement, dans les Jeux Olympiques, tu as toujours des sports qui entrent et des sports qui sortent. Donc le breaking, il est rentré et il est ressorti. Mais en tout cas, la japonaise a gagné. C'est du breaking féminin, je suis très content. Donc son nom de scène, c'est Big Girl. C'est les big girls parce que c'est les big boys. Les big boys, c'est les breaking danseurs garçons et les breaking danseuses filles, c'est les big girls. Donc, Ami Yuasa, en demi-finale, elle s'est tapée contre India, qui est une... Oui. Tout à fait. Et elle s'est battue contre une Indienne. Et franchement, techniquement, je vous invite à regarder la demi-finale, c'est une tuerie. Mais c'est surtout qu'elle a gagné contre la Lituanienne de 17 ans. Et quand elle a gagné, la Lituanienne lui a sauté dans les bras. Donc il y a vraiment une grande effervescence.
Super, c'est mignon.
Ouais, et c'est vraiment très cool parce que la Lituanienne était vraiment très forte.
Le concours est vraiment cool. Elle est image du sport, en fait. Vraiment dans le partage et pas dans la confrontation.
Clairement, c'est vraiment esprit hip-hop. Un peu de charriage pendant les épreuves. Mais vraiment, par contre, au sol, la japonaise a tué tout le monde.
Ah, vrai, sol, j'ai absolument pas suivi, donc voilà, j'avoue, j'ai pas regardé.
Je t'invite à regarder, c'était une dinguerie. Vraiment. Alors, on arrive à la fin de cette émission.
Déjà ?
Oui, t'as vu, ça passe vite, hein, c'est fou. Alors déjà, si vous voulez nous suivre, c'est le compte Instagram @championne_l'émission, bien sûr. Si vous voulez suivre la Fédération Française de Cyclisme, la FFC, c'est @FFCyclisme. Vous pouvez aussi suivre la PETA, c'est important.
Toujours la PETA.
Pauline Ferrand prévôt a elle-même aussi un compte Instagram, n'hésitez pas à la suivre. Et bien sûr, sur la page Facebook.
Facebook.
Les fesses du book. Voilà. Les fesses du book, le quiz de foot tenu par un ami qui a des cheveux, Damien San. Alors, bien sûr, le mot de la fin, Sandrine, il te reste 30 secondes. Je te laisse le mot de la fin.
Ça va être super court. Fin.
D'accord. Merci à l'IGFM pour cette soirée. Merci à la régie.
Merci Diego la
Armando.
Régie.
Voilà. Diego Armando Maradona, bien sûr, toujours avec nous. Vive la France, vive la République, vive le sport, vive les Jeux Olympiques. Là, j'essaie de tenir 15 secondes. T'as vu, c'est comme ça qu'on habille une émission. Vive les chaussettes.
En fait, il faut juste pas le dire.
Vive les kebabs.
Non, mais faut non, juste pas le dire parce non, que si les tu kebabs. Le dis, en fait, c'est.
Les kebabs, on peut remercier les kebabs quand même. C'est la plus grande source de.
Les kebabs, ça s'allie pas trop avec le sport généralement. Mais enfin.
Si, on peut éliminer après, non. Allez, à bientôt.
Écoutez Aligre FM 93.1.